Happiness Radio, toujours au plus proche de vous.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, vous êtes sur Happiness Radio, il est 20h.
Happiness Radio. Happiness passe en mode jeux vidéo et pop culture chaque mercredi de 20h à 23h avec l'entre du geek et Bimanga sur Happiness.
Bonsoir et bienvenue dans l'entre du geek pour ce 20e numéro en direct spécial Power Rangers. Et oui, j'ai réussi à motiver mon équipe à parler de ça pendant déjà une heure si vous étiez avec nous sur Happiness Oise, et également une deuxième heure car nos amis amiénois n'y échapperont pas. D'ailleurs, en parlant de mon équipe, j'ai avec moi Sabrina. Sabrina, bonsoir.
Encore une heure de Power Rangers, youpi !
Laura, bonsoir.
Eh, hey, salut, ouais.
Horta, bonsoir.
Plus que 59 minutes de Power Rangers.
Non, même pas. Et pour finir, Jean-Alain, bonsoir.
On est payé combien pour...
Tu n'es pas payé. Alors, avant de pleinement retomber en enfance dans les années 90, on se fera quand même un petit focus sur les nombreuses fermetures de jeux de studios dans le monde du jeu vidéo. On enchaînera ensuite avec la chronique Cinégeek de Laura. Tu vas nous dire le titre cette fois ou pas du tout ?
Alors cette fois je le dis pas, mais uniquement parce que ça me fait mal de le dire.
On continuera avec la chronique vidéoludique d'Horta qui nous parlera de...
Je vous parlerai de Chroma Squad.
Après, on aura la question connectée qui cette semaine sera: est-ce que les séries nippones comme peut-être à l'origine Power Rangers mais également Nicky Larson ou autres sont-elles adaptées à un jeune public ? On terminera avec le Blind Test Geek spécial série de notre enfance durant laquelle, je sais, votre nostalgie parlera. En attendant, vous pouvez toujours nous retrouver sur l'Insta de la page de l'Entre du Geek et c'est parti jusqu'à 21h tous ensemble et on commence avec le focus de la semaine.
L'Entre du Geek, 20h, 21h sur Happiness Radio.
Vous sentez que je vais être relou avec les points de
oui. Oui.
Franchement, ça ne s'est pas senti. Hein.
Alors, je voulais qu'on revienne un peu sur les fermetures de ces studios de jeux vidéo. Alors, on en avait parlé un peu en première heure, si vous nous avez écouté sur Happiness Radio Oise, lors des news. Mais c'est vrai que là, on a encore eu la fermeture de 4 studios qui a été annoncée de manière assez brutale, je trouve. Donc, on a quand même 1900 personnes qui ont été licenciées et ça ne fait que rajouter encore... à l'ensemble des licenciements. Jean-Alain, tu disais...
Faut préciser que c'est 4 studios internes à Microsoft.
Ouais. Donc. Ouais. Voilà. Et il y a 2500 en gros et ça va encore augmenter.
Donc en tout, on est quand même à 2500. Ouais, c'est assez énorme. Ouais. Et est-ce que ça ne montre pas quand même une sorte de maladie en fait, du jeu vidéo ? Je sais pas.
Non.
Alors non, la maladie ne vient pas du jeu vidéo forcément, c'est plutôt des actionnaires.
Elle vient du capitalisme.
Voilà. Alors lors de la période Covid, en fait, le jeu vidéo a fait une montée une grosse montée en bourse avec parce que le jeu vidéo se vendait beaucoup plus facilement, les gens avaient le temps. Et les actionnaires se sont dit tiens, je vais, on a de l'argent à se faire, on va continuer. Et pendant le Covid, ça marchait, ça montait. Et on arrive hors Covid, c'est toujours au même stade, c'est quand même assez haut. Et ils ont décidé, comme ça ne monte plus, ils commencent à retirer de l'argent et c'est les studios, les développeurs qui s'en prennent plein la figure.
Parce qu'au départ, quand on dit ouais, le jeu vidéo va mal, on pourrait penser un peu à ce qui s'est passé avec la crise de 83. Sabrina, tu nous en avais parlé dans une émission précédente, avec notamment les jeux qui avaient été enterrés dans le désert du Nouveau-Mexique.
Ouais.
Après, Nouveau-Mexique ou Nevada, je ne sais plus. Réécoutez sur les podcasts de l'entre Nouveau-Mexique. Mais là, cette fois, c'est pas un désintérêt de la part des joueurs, puisque les jeux qui sortent sont quand même bons.
Alors, t'as parlé de désintérêt des joueurs. En fait, le problème, c'est aussi au niveau de la structuration de l'industrie. C'est qu'il y a... on sait que le jeu vidéo, c'est le plus gros marché de médias du monde. Ça pèse beaucoup plus lourd que le cinéma ou n'importe quelle industrie culturelle. Donc, ça attire beaucoup les investisseurs, forcément. Mais il y a aussi la technique qui progresse, les capacités des consoles et des PC qui font qu'on est capable de faire des choses formidables et que du coup, quand on veut faire des choses formidables, ça prend de plus en plus de monde, donc la masse salariale augmente. Et en fait, donc, les jeux coûtent de plus en plus cher, que ce soit des petits jeux ou, et on peut citer Hi-Fi Rush, donc on n'a pas les chiffres, Mais le jeu, en fait, enfin, un jeu comme ça, la production value, elle est là. Et un jeu comme ça coûte cher à faire. C'est plus de l'indé. Et les blockbusters aussi coûtent très cher. Et il n'y a pas de la place pour tout le monde. Donc, ce n'est pas un désintérêt des joueurs, c'est que les joueurs ne peuvent pas jouer à tout. Les joueurs, ils jouent à Roblox, ils jouent à Fortnite, ils jouent à LoL, ils jouent à FIFA, à Call of. Sorti de ça, bah, il n'y a pas beaucoup de place, beaucoup de créneaux pour se placer. Et tout le monde veut y aller, mais en fait, ce n'est pas possible. C'est que les joueurs n'ont pas assez de temps pour jouer à tout. Il y a trop d'offres, en fait. Le jeu vidéo est saturé. Il y a une offre monstrueuse sur Steam, c'est n'importe quoi. Enfin, le nombre de jeux qui sortent chaque année, c'est du grand délire. Il y a un problème d'adéquation entre l'offre et la demande.
Parce que c'est vrai que tu parlais également du prix du jeu qui est plus cher. Est-ce que c'est vraiment plus cher? Parce que
vraiment. Les jeux sont plus chers à produire. Oui, oui,
à produire, oui, mais à la vente, ils ne sont pas plus chers.
Ah si, bah si, si. Bah si, les nouvelles gènes, c'est 80 balles le jeu. Hein.
Ouais, mais à l'époque,
on était à 60. À 80.
Mais à l'époque, je pense à Mega Drive ou de la Neo Geo, où c'était des prix exorbitants aussi pour les.
La Neo Geo, c'était exorbitant. La Mega Drive, ça allait. Hein.
Oui, la console en elle-même, oui, ça allait.
Quoi que soit la console ou les jeux, ça allait.
C'est vrai que le parallèle avec 83, ça marche bien. Parce qu'à l'époque, c'était une saturation aussi du marché qui avait conduit. Qui avait conduit à la situation après catastrophique.
Ouais, mais c'était une saturation aussi du fait que c'était des mauvais jeux qui sortaient.
Oui, non, il y avait aussi énormément de sorties, en fait. Il y avait trop d'offres par rapport à la demande et, comme vient d'expliquer Horta, à la capacité des joueurs à absorber toutes ces propositions.
Donc là, en fait, tu es en train de dire qu'on pourrait potentiellement se retrouver avec une nouvelle crise de 83?
Alors, je pense pas. Enfin, Horta...
Non. Non, mais bon, en tout cas, il y a des erreurs qui sont faites par les gros studios, enfin et par les investisseurs. Les investisseurs, ils sont bêtes et méchants. Ils savent pas comment marche la production d'un jeu vidéo.
Ils veulent
un retour sur investissement, ce qui est logique. Ils voient ce que donne Animal Crossing pendant le Covid. Et à un moment, on dit, en fait, là, il n'y a plus le Covid, du coup, les gens consomment moins. Oui, mais pourquoi? Moi, je m'en fous. Moi, je veux avoir la même rentabilité. C'est pas possible. Tu vires du monde. Enfin, voilà quoi.
Et je vais donner un exemple, c'est par exemple les jeux services. On va donner Fortnite, par exemple, qui fait beaucoup d'argent. Donc les studios, par exemple la Warner, qui ont essayé de faire un jeu service du genre Suicide Squad.
Alors qu'est-ce que t'appelles jeu service?
Des jeux avec des achats à l'intérieur.
Ah, d'accord, avec la microtransaction.
Les microtransactions.
Et puis le jeu est quand même renouvelé régulièrement, il est mis à jour régulièrement.
Ils font souvent un season pass qui vont avec...
C'est vrai que ça, c'est un souci aussi qu'on n'avait pas avant en 83, si on reprend le parallèle de 83, c'est que avant, on achetait le jeu, on l'achetait complet. Là, maintenant, le jeu, on l'a en kit, en fait. Il faut racheter tout le temps, régulièrement. Moi, qui suis un gros fan de jeux de combat, là, avec le dernier Naruto, j'ai acheté le Season Pass parce que je sais très bien qu'il va y avoir 50 persos qui vont sortir. Et que, voilà.
Oui, mais attends, on sort du focus. Là. On sort de la question du focus.
Alors, les jeux sortis en kit, par contre, je ne suis pas totalement d'accord. Parce que quand un jeu sortait avant, s'il y avait un bug, il n'y avait pas de mise à jour parce qu'on n'avait pas Internet.
Ouais, mais du coup, en fait, pour revenir sur le focus, c'est que toutes ces mises à jour demandent bien une masse salariale en plus.
Oui.
Oui,
donc,
totalement.
Donc oui. Forcément, ça ne fait que...
Mais il faut dire aussi que les 4 studios qui ont été cités, là, donc c'est des studios Microsoft, et c'est aussi une conséquence, c'est des choix de Microsoft aussi. Et je ne veux pas me faire l'avocat du diable, mais pour avoir aussi des retours dans le secteur, on n'a pas trop de chiffres sur ces studios. Et quand Xbox a acheté Bethesda, ils ont acheté des grosses licences de Bethesda. Ils ont acheté Fallout, The Elder Scrolls. Ils n'ont pas acheté Tango Gameworks. C'était fourni avec. Donc c'était un peu périphérique. Quand ils ont racheté Activision Blizzard, c'était pour acheter Call of, c'était pour acheter Candy Crush,
World of Warcraft, qui fait quand même de l'argent.
Oui, un peu World of Warcraft ou Diablo, mais beaucoup moins. C'était surtout Call of, et c'était Activision, Call of et Candy Crush. Donc on retrouve ce truc où on veut des grosses licences, et ils voulaient aussi donc des grosses licences. Ils se sont bien plantés avec Starfield d'ailleurs. Donc peut-être qu'ils n'avaient pas forcément l'intention de garder les studios qu'ils avaient là. Arkane Austin s'est quand même bien planté avec Redfall. Même s'ils avaient fait prêt avant, qui était formidable, Redfall apparemment c'était quand même la cata. Et ils n'ont pas suivi. Alors il y a des erreurs de Microsoft qui dit nous on laisse toute liberté créatrice à tous nos studios en interne, ils font ce qu'ils veulent. Après, on se retrouve avec des trucs comme Redfall où il n'y a pas eu de suivi, la prod a été mal gérée, ce qui fait qu'ils n'ont pas pu bien terminer le jeu.
Quand on écoute en fait Redfall, ils voulaient plus faire le jeu, ils espéraient qu'en fait qu'ils arrêtent le jeu, la production du jeu.
Oui. Peut-être que du coup Xbox a été pas assez en amont sur la prod ou je sais pas. Et puis il y a aussi autre chose, on n'a pas les chiffres des studios, mais en général quand tu te fais racheter par Microsoft, t'es content parce que Microsoft ils alignent. Là c'était la grosse fête ces dernières années. Certains studios peuvent aussi être tentés de gonfler leur masse salariale, de se dire c'est bon, on est chez Microsoft, on peut lancer un projet plus costaud, d'autant que c'est de plus en plus cher nos projets. Donc on va gonfler les salaires de l'équipe principale, et en fait bah ça tient pas parce que ça coûte effectivement plus cher et que les retours financiers sont pas forcément au niveau de ce qu'on a investi en masse salariale.
Du coup en conclusion de ce focus, est-ce qu'il faut s'inquiéter de la fermeture de ces 4 studios ou est-ce que c'est quelque chose qui arrive et puis c'est anecdotique?
Alors faut s'inquiéter pour les développeurs parce que c'est la perte de
Ou puis un mouvement de fond, d'un emploi. C'est depuis l'année dernière que ça dure et ça va continuer encore cette année.
Et pour le jeu vidéo, par contre, on a quand même une grande richesse là-dedans.
Pour les joueurs, c'est le bonheur. Là. Voilà.
Bon. Merci en tout cas.
L'Entre-du Geek, 20h-21h sur Happiness Radio.
Avant de passer à la chronique ciné-geek préférée de Laura, je vous propose qu'on s'écoute Grand Corps Malade, Ben Mazué et Gaël Fay et le titre On a pris le temps.
J'ai pris du temps pour mon métier, j'ai pris du temps pour mes chansons. Ce qui allait pas, j'ai pris du temps pour le changer. J'ai pris du temps, ça prend du temps d'essayer. C'est tellement rare quand ça marche, c'est tellement rare que quand ça marche, faudra battre le fer tant qu'il est chaud, le fer tant qu'il est chaud. Parce que l'enfer, c'est pas d'échouer, c'est de pas tout faire pour essayer. Alors j'ai tout fait, jusqu'à étouffer. Ah ouais, j'ai tout fait là. J'aimerais souffler. Je me souviens de ce rendez-vous pris, la promesse d'une pause, d'un répit, du repos pour mon esprit, comme une bulle au milieu du bruit, au milieu de la furie. Mais quelque part, un coin de paradis m'attendait comme une feuille blanche, une feuille blanche. Je suis là, au milieu du monde, pour que la vie réponde. On a pris le temps, et là, et là, et là, au milieu du monde, et là, et là, allongé les secondes, et là, et là, on a pris le temps.
Rencard chez le docteur, chez le coiffeur, chez le veto. Hier j'ai éteint très tard, aujourd'hui je me suis levé tôt. J'ai pris ma douche, j'ai pris la mouche, j'ai pris la route, mes affaires. J'ai pris le train, le taxi, j'ai trop pris, j'ai pris cher. J'ai pris mon fils par la main pour sa fête et son tournoi. J'ai pris le courage à deux mains, le mal de tête c'est pour moi. J'ai pris mes doutes enfouis sous les t-shirts dans ma valise. J'ai pris le tourbus dans une ambiance que souvent j'idéalise. J'ai pris du retard dans ma journée, dans mon planning, dans mon sommeil. J'ai pris de l'avance sur la fatigue, mais pas vraiment sur le réveil. J'ai pris une allure, une cadence, un rythme entêtant, mais c'est vrai. J'ai pas pris le temps depuis longtemps.
Je me souviens de ce rendez-vous pris, la promesse d'une pause, d'un répit, du repos pour mon esprit, comme une bulle au milieu du bruit, au milieu de la furie. Mais quelque part un coin de paradis m'attendait comme une feuille blanche, une feuille blanche. Je suis là, au milieu du monde, pour que la vie réponde. On a pris le temps, et là, et là, et là, au milieu du monde, et là, et là, allongé les secondes, et là, et là, et là, on a pris le temps, et là, et là, au milieu du monde, et là, et là, pour que la vie réponde. On a pris le temps.
C'était On a pris le temps de Grand Corps Malade, Ben Mazué, et je sais que je me suis fait rouspéter par la femme d'Horta, Gaël Fay.
We'll be right back.
20h-21h sur Happiness Radio.
Il est temps maintenant de passer à la chronique ciné-geek préférée, je sais, de toute la saison de Laura.
Oui, ouais. Je suis absolument ravie. Qu'est-ce que je suis contente. Bonsoir à tous. Ce soir, je ne vous souhaite pas vraiment la bienvenue dans cette chronique, puisque comme vous le savez, on m'a légèrement imposé le sujet de ce soir. Et laissez-moi vous dire que c'était clairement pas mon premier choix.
Oh, imposé.
Non, pas du tout, non. Si. Parce que voyez-vous, moi, dans cette chronique, j'aime bien parler de bons films, ou à défaut de films que j'aime au moins. Eh bien, sachez que le film de ce soir ne répond ni à l'une ni à l'autre de ces définitions.
Et attends, j'ai deviné le titre du film.
Oui, alors attends, attends La faute à notre gourou Damien qui s'est mis en tête de brimer notre, enfin ma créativité. L'avantage, le seul du coup que j'ai trouvé à vrai dire, c'est qu'Horta va trouver le titre du film de ce soir les doigts dans le pif.
Alors, Dragon Ball Z.
Dragon Ball Evolution.
Et ce sans même que j'ai besoin de faire le résumé bidon normalement. Et ce qui me plonge moi dans une tristesse extrême, parce que j'aime bien le faire, mon résumé bidon.
T'aurais pu le faire, juste pour le fun.
Oh, trop fun. Alors, sans plus tarder, sans roulement de tambour, je vous laisse me donner le titre du film de ce soir.
Horta.
Power Rangers Mighty Morphin.
Ah non.
Ah, c'est pas le Mighty... Oh non, mais t'as assez. Allez, on s'arrête là.
Même là, il arrive à se planter, c'est ouf.
Enfin, c'était pas très difficile, hein. Donc, par contre, ce que vous saviez pas, c'était la version que j'avais choisie. Oui, parce qu'en plus, il existe deux adaptations de cet incroyable monument de pop culture qui est Power Rangers. C'est des sarcasmes. Le premier est sorti en 95 et l'autre en 2017. Il m'a donc fallu faire un choix entre ces deux versions, tant les deux me semblaient alléchantes. C'est des sarcasmes.
Alors, juste pour info, en fait, il y a même une troisième version.
Tais-toi.
Il y a trois versions.
C'est quoi des sarcasmes ?
En fait, il y a une troisième version, c'est Power Rangers Turbo, mais ça, on en reparlera plus tard.
Ouais, ah. On en reparlera bien plus tard.
Et la prochaine émission.
Jamais. Et donc, comme il était absolument hors de question que je me tape les deux versions, j'ai donc décidé de privilégier la plus récente des deux en me disant qu'à défaut de voir un film de qualité, au moins celui-ci me piquerait moins les yeux. Spoiler alerte, ça pique quand même. Bon, pas comme quand tu manges du wasabi sans faire exprès parce que t'avais pas remarqué qu'il y en avait qui étaient restés collés au sushi et que tu te frottes les yeux derrière parce qu'il y a trop de lumière dans ce resto japonais, mais plutôt comme quand tu te colles du shampoing doux dans la figure sous la douche et que t'as pas de serviette à proximité.
Surtout qu'il est pas doux, le shampoing. C'est fou. Bon, je crois qu'on a compris l'idée quand même.
Voilà, donc on va parler du film Power Rangers, réalisé par Dean Israelit et sorti en 2017. Bon, dès le début, je vous avouerai que l'histoire n'est pas claire pour ceux qui, comme moi, ne connaissent absolument rien de la franchise Power Rangers, à part le sketch des inconnus. Et c'est dommage, parce que le Ranger jaune devant et marron derrière, bah, c'était un peu mon préféré à moi.
Pareil.
Voilà. On se retrouve donc propulsé sur Terre à l'ère du Cénozoïque, où une bataille interplanétaire fait rage entre Zordon, le Ranger rouge, chargé de protéger la vie sur Terre, et le cristal Zeo, et Rita, la Ranger verte, qui a trahi son ordre et veut récupérer le cristal pour servir ses propres intérêts. Heureusement, on sent que Zordon n'a pas été choisi comme chef par hasard, parce que pour protéger la vie sur Terre et contrecarrer les plans de Rita, il décide de... détruire toute vie sur Terre en balançant une grosse météorite qui va anéantir les pauvres dinos qui n'avaient rien demandé. Et alors là, respect, ça fait même pas 5 minutes que le film a commencé et j'ai déjà rien pigé à ce qu'ils essaient de faire. Du coup, j'ai super hâte de voir la suite. Mais bon, paradoxalement, je trouve l'univers et les extraterrestres pas trop dégueux en termes de conception, alors je m'arme de toute ma bonne volonté et je poursuis mon visionnage. On fait ensuite la connaissance de lycéens, somme toute charmants, qui tentent d'introduire une vache dans un vestiaire en faisant des blagues bien lourdingues. Ah oui, non, mais et tout ce que je dis est véridique, attention. Hein.
Oui, c'est vrai.
Et t'as aimé, Damien ?
Non, enfin, on en reparlera après.
On en reparlera, oui. Pardon. Et qui crache une voiture en tentant de prendre la fuite. Ce qui vaudra au quarterback de l'équipe de se retrouver en retenue jusqu'à la fin de l'année. On comprend vite que ce bad boy qui cache un grand cœur sous sa carapace sera bien entendu notre chef de bande. En col, il va rencontrer un nerd un peu autiste et rejeté par les autres. Et la fille la plus populaire du lycée qui cache pourtant un lourd secret. Est-ce qu'on n'est pas déjà au summum de l'originalité en termes de construction de personnages ? Non, parce que je sais pas vous, mais moi, le quarterback repentant, la jolie fille rebelle et le nerd, franchement, c'est pas un trio que je vois souvent dans absolument tous les teen movies du monde.
Non, c'est surfait.
Donc tout ce petit monde va se retrouver à l'entrée d'une vieille mine d'or qui vont faire exploser. Me demandez pas pourquoi, j'ai rien compris. Ils seront rejoints par deux autres adolescents, pas du tout clichés eux non plus, et les cinq compères, qui ne se connaissent quasiment ni d'Ève ni d'Adam, vont se retrouver en possession de cinq médaillons de couleurs différentes. L'arrivée de la sécurité de la mine les oblige à fuir et à se prendre un train de plein fouet. Fort heureusement, les jeunes se réveillent tranquillement chez eux le lendemain, sans aucune idée de la façon dont ils sont arrivés là, ni même comment ils ont survécu. Je vous rassure, nous non plus, et on le saura jamais d'ailleurs. Mais ils se rendent vite compte qu'ils sont désormais dotés de pouvoirs incroyables et décident de retourner à la mine pour y voir plus clair. Sur place, il découvre un vaisseau spatial, un robot, un extraterrestre enfermé dans un mur qui bouge, c'est pas une blague, et apprennent qu'ils sont désormais liés par le destin et doivent sauver la Terre du retour de Rita, qui, au magie, vient de se faire repêcher dans la mer par le père du quarterback, exactement au même moment. C'est quand même pratique, les coïncidences, parfois. Vous vous rendez compte, il n'y aurait pas eu de film sinon, et ça aurait été franchement dommage, hein. Donc l'extraterrestre dans le mur, qui n'est autre que Zordon, qui leur explique qu'ils ont été choisis pour être les nouveaux Power Rangers, qui devront sauver le monde. Et alors, que fait logiquement un adolescent lambda qui vient de découvrir qu'il a des pouvoirs et qui va probablement se faire massacrer par une nana qui commande un gros monstre tout en or ? Bah, il monte sur le machin lumineux trop bizarre qu'on lui présente et il accepte de se faire casser la tronche, bien évidemment. Mais j'imagine que tout ceci est une situation tout à fait plausible pour un fan de Power Rangers, y compris le cabotinage méga exagéré d'Elizabeth Banks, l'interprète de Rita la méchante, que j'ai personnellement trouvée exaspérante, mais qui est bien la seule à comprendre dans quel film elle joue. Bref, je vous épargne la suite du film, les Power Rangers finissent par comprendre au bout d'une heure de film qu'en fait ils sont une team et que c'est comme ça qu'ils vont gagner, ils gagnent, Rita perd, rideau.
Bon ok, je suis pas sûr de devoir te demander ce que tu penses du film.
Alors, déjà, je veux bien rappeler à tous ceux qui nous écoutent qu'encore une fois, je ne connais rien à Power Rangers et que du coup, c'est vraiment mon avis de spectatrice lambda qui s'exprime. Alors, j'imagine que pour un fan de la première heure, il doit y avoir plein de références cool et que le Megazord à la fin du film doit en faire frissonner plus d'un.
Un peu.
Mais mon Dieu, que c'est mauvais ! Vouloir faire une approche sérieuse des personnages, c'est un contresens catastrophique dont le film ne se remettra jamais, loupant son vrai potentiel pour n'être qu'un drame adolescent mièvre et sans profondeur. Ici, les personnages principaux sont des individus torturés et le film passe en revue de manière non subtile tous les clichés possibles de l'adolescence. Entre le fils prodigue qui fuit ses responsabilités, l'autiste ultra intelligent qui se fait maltraiter à l'école, la lesbienne incomprise par sa famille puritaine, la fille du lycée superficielle qui se remet en cause après une erreur commise et le rebelle bad boy qui est comme ça car sa maman est malade, on va les entendre se plaindre sans la moindre finesse et sans la moindre profondeur de leur trauma pendant la quasi-totalité du film. Et en fait, c'est ça le vrai problème. Faire un teen movie ne doit pas être un prétexte pour se prendre faussement au sérieux en balançant des stéréotypes toutes les 30 secondes, tout en oubliant totalement qu'on a un scénario à tenir derrière. Même si le film enrobe sa représentation de la jeunesse avec un message d'espoir et de solidarité, il prend à la légère des sujets graves comme le harcèlement, le revenge porn ou encore les troubles du développement humain. Ici, l'autiste de la bande ne sert que de comic relief et jamais le film ne le prendra au sérieux, jusqu'à ce qu'on oublie même totalement sa condition une fois qu'il a ses pouvoirs, alors qu'on avait insisté sans finesse sur ça juste avant. L'écriture se montre donc globalement aléatoire et inerte, notamment dans les relations du groupe qui ne sont jamais convaincantes, et malgré ses tentatives, le film n'arrive jamais à leur donner la quelconque épaisseur. Power Rangers, c'est un film qui se prend bien trop au sérieux pour son propre bien. À cause de ça, il étouffe ses rares fulgurances, à savoir un final qui aurait pu être encore plus fun, et une méchante qui fait honneur quand même à ce qu'est Power Rangers. Faisant tous les mauvais choix d'écriture et ne parvenant jamais à donner forme à ses intentions, le film s'effondre comme un château de cartes et il ne peut ni compter sur une réalisation amorphe, ni sur un casting aux fraises, pour venir lui donner une quelconque substance. C'est d'autant plus dommage qu'à quelques moments, Power Rangers arrive à dessiner les contours d'un film qui aurait vraiment pu être meilleur.
Ouais, c'est... mais le problème, c'est que je suis entièrement d'accord avec toi.
J'ai mais pas... alors, pourquoi est-ce que tu m'as imposé alors, de regarder
ce film ?
Je
t'ai pas imposé celui-là. Tu avais le choix entre celui-là et Suite 95, mais Suite 95, en fait, est ancré, entre guillemets, dans la franchise. Après, il y avait celui de Power Rangers Turbo, mais celui-là, j'ai même pas eu le temps de le regarder, il faudrait que je regarde un de ces jours.
C'est vraiment trop dommage.
Après, le problème avec ce film, vraiment, c'est qu'encore une fois, il se prend trop au sérieux. Quand j'étais le voir au ciné, au départ, vraiment un exemple très simple, j'ai été le voir au ciné avec un pote et il y avait des familles qui étaient là avec leurs enfants, à tel point que les enfants en fait ont pris peur devant le film, ont commencé à hurler dans la salle parce que le film se veut trop sérieux, trop dramatique, alors que Power Rangers c'est pas ça. Power Rangers, on demande juste des robots, des dinosaures et des combats en costume de spandex, c'est tout, on demandait que
c'est
ça.
C'est spandex le mot.
Oui, c'est pas
mais c'est ça qui est important. Oui, il me semble, peut-être que je dis une bêtise, mais une licence pareille, tu peux pas être sérieux.
Bah non.
Enfin,
non.
Soit t'es sérieux, mais jusqu'à les, tu deviens dark, tu rends la licence vraiment dark.
Il y a des fan-made comme ça.
Comme pour les Tortues Ninja ou des fan-made Power Rangers.
Power Rangers Unworthy qui est super bien.
Ou alors, tu fais de l'autodérision et tu gardes le spandex, tu gardes le carton de pâte et c'est aussi ça qu'on aime. C'est
et
ce côté kitsch.
Le pire, c'est que bah, justement.
Mais tu peux pas être sérieux, quoi.
Bah non. Et les costumes, on ne les voit, et ils n'ont leur armure qu'aux deux tiers du film.
C'est ça.
C'est-à-dire
c'est
que
ça.
Tu ne les vois combattre vraiment et avoir leur armure que tout le monde attend, leur costume, que quasiment à la fin du film. Et donc tu t'es fait suer pendant deux tiers de film. Aller voir se lamenter et faire des combats nuls. Et enfin, toi, t'as compris depuis le début qu'en fait, c'est parce qu'il faut qu'ils soient soudés pour que ça marche.
Le pouvoir de l'amitié.
Ben c'est oui. Ça. Et eux, ils sont là, oh, ben, on comprend pas, on n'arrive pas à l'avoir, le costume.
Ce qui est hyper drôle, enfin, moi, je me souviens des séries parce que le film, je ne me suis pas infligé, mais j'ai de la chance.
Je te passerai le DVD.
Non, merci. Mais ce qui était marrant, c'était justement le moment où ils se déguisaient, ils se transformaient. Enfin,
alors que là,
c'est
en fait.
C'est hyper risible ce moment-là.
Tout est en image de synthèse, c'est moche, même les Zords, je suis désolé. Alors, j'ai un peu kiffé parce que au moment où les Zords apparaissent pour la première fois, on entend Go Go Power Rangers pendant à peu près mais 3 secondes, alors que bah non, c'est à ce moment-là qu'il aurait fallu le mettre à fond, tous les fans auraient hurlé dans la salle de joie, enfin, mais non, en fait ce film est passé à côté de son essence et c'est dommage, franchement, c'est dommage parce qu'on attendait un renouveau de la licence et il n'est pas arrivé avec ce film. Au contraire, il y avait un deuxième qui était censé être prévu. Puisque Laura, j'imagine que tu n'as pas vu la scène post-générique.
Si. Je te jure, je suis allée jusque là.
Il y a une scène post-générique.
Ouais.
Et elle sert à rien.
Elle sert à rien parce qu'en fait, ça annonce juste l'arrivée du Ranger Vert, qui au final aurait été une femme par rapport au truc originel où c'est Tommy Oliver, à savoir le plus grand Ranger au monde sur Terre, qui malheureusement est mort.
D'ailleurs, c'était pas à la base hyper genré, hyper codifié, enfin hyper un peu raciste et sexiste ce truc pour Rangers.
Pour Rangers, c'était ça. Alors,
parce que la fille était rose,
le Ranger noir était noir.
Le jaune était asiatique, le Ranger noir, c'était un noir.
D'ailleurs, mais c'est toujours ça.
D'ailleurs, avant de passer à la chronique d'Horta, petite question, est-ce que vous savez pourquoi, justement, le Power Ranger jaune, qui est une femme, n'a pas de jupette, alors que le Power Ranger
oui.
Rose, vas-y.
Parce qu'au départ, les Super Sentai, il n'y a qu'une femme.
Exactement.
Ah
dans le Super Sentai Zio Ranger, qui est à l'origine de Mighty Morphin Power Rangers, en fait, le Ranger jaune, c'est un homme. C'est pour ça. Donc voilà.
Moi, j'ai une dernière question.
J'ai un point sur le blind test.
Juste une dernière question.
Oui.
C'est meilleur que Dragon Ball Evolution ?
C'est du même genre. Honnêtement, c'est dans le même genre.
Tu te rends compte de ce que j'étais obligée de faire ?
Je te plains.
On est une team comme les Power Rangers, on souffre ensemble pour aller ensemble vers la fin.
Ouais, en attendant, vous ne l'avez pas regardé. On aurait dû faire une séance commune et là, vous auriez souffert comme moi.
Non. Merci Laurent en tout cas pour cette chronique.
Mais je t'en prie.
Et on va passer tout de suite à la chronique d'Horta.
20h, 21h sur Happiness Radio.
Horta, tu nous parles aujourd'hui d'un jeu inspiré des Power Rangers.
Oui, alors je vais me désolidariser un petit peu de mes camarades parce que moi, je vais d'abord te remercier, Damien, de m'avoir épargné les dernières adaptations vidéoludiques des Power Rangers et de m'avoir mis entre les mains un jeu indépendant qui s'inspire de leur univers. Les jeux Power Rangers officiels ont en effet la réputation d'être de qualité plus qu'inégale. Cela pourrait changer, puisqu'Hasbro a récupéré la licence en 2019 et que, comme on le disait la semaine dernière, ils sont en train de mettre des gros billets dans le jeu vidéo. Reste qu'à l'heure actuelle, et d'après Metacritic, une des meilleures adaptations vidéoludiques des Power Rangers semble issue de la scène indé. C'est déjà ça de gagné. Je vais donc vous parler d'un jeu des Brésiliens de chez Behold Studios, sorti en 2015. Bienvenue dans Chroma Squad.
La musique, elle envoie du lourd.
La musique envoie du lourd. Chroma Squad raconte l'histoire de 5 cascadeurs de Sentai surexploités par leur réalisateur qui décident de tout plaquer pour créer leur propre studio et leur propre show télé. Vous allez d'abord choisir vos 5 personnages dans un roster très varié de personnages prédéterminés, inspirés de figures de la culture pop comme Bruce Lee ou Scarlett Johansson, chacun avec des bonus et des malus en matière de combat ou de talent d'acteur. Une fois votre équipe sélectionnée pour le reste du jeu, vous allez pouvoir commencer à enregistrer dans un vieux hangar désaffecté, en réalisant des épisodes qui seront autant de combats avec des boss et leurs sbires, entrecoupés de dialogues très second degré. Entre chaque épisode, vous pourrez investir dans l'équipement de vos personnages en les craftant ou en les achetant à la boutique, mais aussi dans du meilleur matériel de studio, des agences de marketing et dans votre méca. On alterne donc entre deux phases de jeu, combat tactique et gestion de studio, tout en suivant les pérégrinations de nos cascadeurs, un peu fauchés à leur début.
Alors, ça donne quoi les Power Rangers en mode tactical RPG ?
Alors d'abord, un petit rappel de ce que c'est qu'un tactical RPG. Vous contrôlez plusieurs personnages, enfin beaucoup de personnages, chacun avec des spécialités ou des capacités uniques, que vous devez exploiter au mieux pour vaincre un groupe d'ennemis un peu plus nombreux, en tour par tour et sur une grille souvent isométrique. un peu comme les échecs, mais avec ses propres règles. Dans Chroma Squad, on contrôle la plupart du temps 5 rangers, chacun avec leur rôle dans l'équipe. Attention, Sabrina, Laura, Jean-Alain, vous êtes prêts pour les rôles ? Ranger Rose, qu'est-ce qu'elle fait ? C'est là ?
C'est la fille.
Non.
Mais elle fait quoi, elle
c'est quoi son rôle jeu vidéo dans l'équipe ?
C'est le faire valoir, elle cueille des fleurs.
Non, c'est pas un
le
pouvoir,
love
ça.
Interest.
Non, mais en mode jeu vidéo, dans un RPG.
À quoi elle sert dans la team ?
C'est quoi, c'est le voleur, le roublard ?
La sniper ?
Non. C'est la soigneuse.
C'est la soigneuse.
Ok, pas de point. Ranger noir.
Le bourrin.
Oui, c'est le DPS, de dégâts par seconde. Ranger rouge.
Le tank. C'est le chef d'équipe.
C'est le chef.
Le tank a bien joué, Jean-Alain. Oui.
Ranger jaune.
Le DPS à distance.
Ah non. Tu dis ?
Il cuisine.
Non.
La buffeuse.
Non, la scout.
Oh oui.
C'est celle qui se déplace.
Qui se déplace le plus loin. Et Ranger bleu.
Bah lui, il résout les énigmes.
Ah ouais, il y a un peu de ça.
Il y a un peu de ça.
Il fait la magie.
Non.
Non, il n'y a pas de magie dans Power Rangers.
Le sniper.
Ouais, oui, alors plus large que ça.
Il fait des flèches.
Plus large que sniper.
C'est le tireur d'élite.
C'est le technicien. Ouais. C'est celui qui a tous les gadgets.
On a tout trouvé.
Ouais, et puis alors, easy. Hein.
Et puis il y a Ranger blanc, Mighty Morphin. Car oui, effectivement, vous serez très régulièrement accompagné d'un autre ranger ou d'autres personnages, ce qui est très sympa, que ce soit pour le gameplay ou l'histoire, il y a régulièrement d'autres personnages qui vont se joindre à vous comme un sixième ranger. Tous les rangers peuvent se déplacer et faire une action une fois avant de passer automatiquement autour des adversaires. Vos actions de départ se résument d'abord au choix entre attaquer au corps à corps et faire une action de groupe. Cette posture va vous permettre à la fois de servir de tremplin aux autres rangers pour augmenter leur capacité de déplacement et de participer à des attaques groupées. Si tous vos rangers peuvent lancer une seule attaque groupée, de préférence sur le boss, vous lancez une attaque ultime avec la petite cinématique qui va bien. Mais avant ça déjà, une fois que l'épisode a gagné un peu d'audimat, les rangers peuvent lâcher leur fumigène et enfiler leur costume premier prix et gagner de nouvelles actions propres à leur rôle. De nouvelles actions se débloquent à chaque saison et une seule de chaque peut être équipée histoire de personnaliser un peu nos rangers. Enfin, dans plusieurs combats, vous pourrez faire appel à votre mecha et passerez alors à un combat en vue horizontale dans lequel il faudra enchaîner des combos timés et utiliser vos super pouvoirs de mecha.
Et alors, qu'est-ce que tu as pensé de ces combats ?
Les combats fonctionnent plutôt bien, notamment avec cette feature d'action de groupe qui convient bien à l'univers des Sentai, mais aussi avec l'ajout d'objectifs facultatifs qui vous rapportent plus d'argent ou d'audimat si vous les accomplissez. Vous devrez par exemple éliminer 5 troufions de base en moins de 4 tours ou achever le boss par une attaque de groupe ultime. Niveau gameplay, plusieurs points m'ont quand même gêné. Pendant plusieurs combats, la grille m'a paru plate et aussi vide qu'une arène de Sentai. Les décors de fond semblent changer assez souvent, ça c'est super, mais le manque d'éléments extérieurs sur la grille pour rendre les premiers combats répétitifs. Alors, j'ai pas essayé de jouer, tu m'as confirmé Damien qu'il y avait des obstacles qui apparaissent au bout d'un moment. Moi, après 3-4 heures de jeu, j'en ai pas vu, donc je trouve que c'est un peu tard. Et que tout ce qui est joué avec le décor n'est pas beaucoup exploité.
Alors même quand ils apparaissent, hein, c'est pas non plus ouf.
Bah oui, mais le truc c'est que on a quand même nos rangers et les ennemis peuvent faire reculer l'adversaire avec certains coups, parfois même avec un effet de zone. Mais du coup, ça change rien s'ils atterrissent dans un obstacle ou dans un autre ranger. En plus, le jeu n'indique pas quels sont ses coups. Il faut apprendre ça à la dure, sachant que faire reculer un adversaire n'est pas toujours judicieux. S'il devient hors de portée. Ensuite, on ne peut pas faire son unique déplacement plusieurs fois ou l'annuler, ce qui est frustrant quand il s'avère que notre cible est finalement hors de portée de la capacité qu'on comptait utiliser. Enfin, on n'a pas d'indication des dégâts potentiels d'une attaque isolée ou groupée sur un ennemi. Il faut se contenter des stats sur les persos et des actions, ce qui n'est pas du tout pratique pour planifier ses tours. Heureusement, les ennemis de base et les boss se renouvellent très régulièrement, ce qui amoindrit la répétitivité. Et surtout, les combats sont émaillés par une histoire et des dialogues qui se suivent avec plaisir, et dont la traduction française est assez bonne. Les phases de combat sont régulièrement interrompues et renouvelées par l'apparition de personnages loufoques dans des costumes improbables, le tournage de l'épisode se concluant par un écran avec des tweets de fans plus ou moins hypés par l'épisode. C'est souvent drôle, avec un gros sens de l'autodérision et des clins d'œil aux joueurs qui collent bien à l'univers Sentai, contrairement au film dont tu parlais, Laurent. Passer la légèreté de la première saison à gérer les comédiens capricieux, les menaces vont devenir plus concrètes pour notre équipe de bras cassés et l'histoire promet pas mal de rebondissements au fil des saisons.
Ok, pour les combats, et côté gestion, ça donne quoi ?
Côté gestion, Chroma Squad est très généreux. Entre chaque épisode, vous pouvez acheter, crafter ou améliorer les costumes et les armes de chacun de vos 5 personnages, dont les bonus en partie aléatoires peuvent améliorer les points de vie, les dégâts, la régénération de capacités spéciales ou encore les chances d'esquiver ou de contrer. Si vous préférez garder vos sous pour d'autres achats, vous pouvez les crafter avec les très nombreux matériaux laissés par vos adversaires au combat. Vous pouvez également les fusionner pour en faire des matériaux plus rares, fusionner les, voilà. Ou encore acheter des loot box de matériaux à la boutique. Bon, ça commence quand même à faire beaucoup à gérer, sachant que vous avez dès le départ 5 personnages avec chacun 5 ou 6 slots à équiper, plus rapidement un mecha. Peut-être que le système de craft est un peu superflu. Heureusement, les descriptions d'équipements sont là aussi souvent amusantes et l'interface de gestion bien pensée. Vous pouvez également acheter du meilleur équipement pour votre studio télé, comme de la toile pour le fond vert, des éclairages, un aspirateur ou une assurance maladie. Chaque équipement acheté peut à nouveau être amélioré et va renforcer vos stats globales de combat ou de gestion. Malheureusement, on ne sait pas trop quoi prioriser car les améliorations sont un peu génériques et se différencient peu. Pareil pour les agences de marketing qui offrent chacune des services différents, mais dont on a du mal à mesurer les effets à terme. On se retrouve donc facilement à répartir son argent entre les différentes boutiques au petit bonheur la chance, en espérant que nos persos seront assez boostés pour le prochain épisode. Et en général, ils le sont. J'ai joué en hard, et je n'ai jamais eu l'impression que de mauvais choix de gestion m'avaient mis en difficulté lors des combats. On est donc loin d'un XCOM, où chaque choix de gestion doit être longuement réfléchi sous peine de rapidement rendre les combats ingérables. Chroma Squad, lui, fait encore une fois le choix de la générosité et de l'amour de la franchise, qui s'illustre notamment dans les messages que vous pourrez recevoir entre chaque épisode de différents personnages loufoques, certains auxquels vous devrez répondre avec des conséquences sur l'histoire, bien vu. Ou encore, ça se voit aussi dans le menu options du studio. Ici, vous pouvez en effet changer le nom de l'équipe et du studio, le nom de la transformation de groupe, le cri de transformation, le nom du mecha, le cri d'appel du mecha et le coup de grâce. Tout ça apparaîtra évidemment dans les dialogues et les cinématiques. Franchement, que demander de plus?
Et la partie artistique?
Visuellement, on a un pixel art à gros carré façon console 8 bits, peut-être un peu brut, mais qui a de la personnalité, s'accorde au ton et au personnage. Les cinématiques sont simples et efficaces, l'interface des menus bien pensée, l'accès aux nombreuses infos du jeu intuitif. Le sound design est à mon avis un peu trop en retrait. Par contre, j'ai vraiment adoré certaines musiques rétro et électro. J'ai même mis l'OST dans mes favoris en faisant cette chronique, sagement aux côtés de celles de Fury et Hotline Miami. D'ailleurs, je vous propose tout de suite l'intro de la troisième piste, Light, Camera, Chromatize.
Ah, j'avoue, c'est entraînant quand même.
C'est catchy.
Ouais.
C'est catchy.
Totalement. Et du coup, pour conclure sur Chroma Squad.
Chroma Squad est une bonne surprise. Merci Damien de m'avoir emmené dans ce voyage sur les terres des Saban's Power Rangers. Je pense que pour les fans de Sentai, les geeks, les vrais, c'est un excellent jeu qui mérite peut-être un 87 sur 100. Le jeu a ses petits défauts, mais encore une fois, l'amour des développeurs pour les Power Rangers transpire dans la générosité du gameplay et de l'écriture. Pour les pas encore fans de Sentai ou de musique électro, je lui donnerai un 74 sur 100, car ces joueurs seront sans doute plus sensibles aux soucis de gameplay. Mais je suis curieux de voir s'il y aura une suite qui pourrait gommer ces petits défauts de jeunesse. Chroma Squad est disponible au prix de 15€ sur les plateformes PC, OS X, Linux, PlayStation 4, Xbox One, iOS, Android, Nintendo Switch. Pas mal.
Même Android.
Petit aparté pour ceux qui sont sûrs définitivement de ne pas aimer les Power Rangers, mais qui aiment les tactical RPG, le pixel art et les mechas, je ne saurais trop vous conseiller, mais vous le savez sans doute déjà, chers amis, Into the Breach, sorti en 2018 avec aux manettes Justin Ma et Matthew Davis, les deux génies qui ont pondu Faster Than Light, et Chris Avlon, concepteur de Fallout 2 et New Vegas à l'écriture, s'il vous plaît.
Alors, je suis entièrement d'accord avec les notes que tu as mis, justement, on en discutait parce que...
Cool, j'allais te demander de la note en tant que fan de Sentai.
En tant que fan, ouais, alors 87, j'aurais peut-être même mis moins en tant que fan de Sentai.
Parce que
le gameplay pose problème.
C'est un peu cassé par moment.
C'est un peu cassé et puis c'est vite redondant. Après, l'histoire est intéressante, sans spoiler, on a vraiment un côté qui est assez intéressant et qui peut plaire au Sentai, mais il faut vraiment le voir au second degré, quoi, en fait.
Ah oui, c'est très, très, très second degré, et je trouve que ça colle très, très bien à la licence.
C'est ça, je pense que les créateurs sont des amoureux des Super Sentai.
Oui, il faut voir le trailer est super.
Clairement, ça donne envie. Bon, merci en tout cas, Horta, pour cette review.
L'entre du geek, 20h-21h sur Happiness.
Avant de passer à la question connectée, je vous propose qu'on s'écoute Imagine Dragons encore et le titre Eyes Closed. I can do this with my eyes closed. I'm back from the dead, from the back of my head. Been gone and facing horrors that should never be said. The wrath and the grit from the pit of despair. Been taking every whip and word I've never been spared. This is tomorrow's never promised, honest. This ain't C'était Imagine Dragons et le titre Eyes Closed.
Sur Happiness Radio.
Il est temps maintenant de passer à la question connectée de la semaine qui est: est-ce que les séries nippones sont adaptées à un jeune public? Alors quand on parle séries nippones, on parle bien évidemment des Super Sentai puisque c'est un peu le thème de l'émission depuis maintenant presque 2 heures. Mais on parle aussi de tout ce qui est Nicky Larson, Ken le survivant et tout ça, qui sont passés sur l'antenne, notamment sur TF1 à l'époque, et qui ont été pas mal décriés.
Oui, déjà à l'époque, quand c'était arrivé, il y avait une certaine Ségolène Royal qui avait écrit un livre qui, je crois, s'appelait « Le ras-le-bol des bébés zappeurs ».
C'est ça.
Et qui condamnait ses dessins animés. Après, c'est sûr que quand on regardait à l'époque un Nicky Larson, où c'est un mec libidineux qui a du mal à rester à sa place quand il voyait une jeune femme, forcément, quand tu regardes ça et que t'as moins de 10 ans, c'est peut-être pas très bien adapté.
Je pense en fait que le souci, il vient carrément d'une méconnaissance, et c'est encore le problème qu'il y a souvent, c'est que quand TF1 et c'était Azoulay, je crois, qui arrivait avec le Club Dorothée, ils n'avaient pas de quoi le remplir parce que les dessins animés occidentaux, c'était bof quoi. Au bout d'un moment, ça, c'était vite redondant.
Et puis ils ont vu le nom dessin animé, ils n'ont pas regardé en fait le contenu. Pour eux, c'est dessin animé, c'est pour les gamins. Donc on met ça à la télé et c'est après en regardant à la diffusion qu'on se rend compte que c'est plutôt adulte les thématiques abordées.
En fait, c'est ça, c'est qu'ils ont été voir les Japonais, ils leur ont acheté carrément au kilomètre de bobine, ils ont pas, ou au poids, je crois. Enfin bref, ils ont pas, c'était même pas à l'épisode, c'était au poids ou au kilomètre de bobine.
Kilomètre, il me semble, ouais.
Ouais, et sans regarder, et il y a eu un souci, un premier souci notamment avec les doubleurs, parce que quand les doubleurs français ont vu ça, ils ont fait non mais stop, on va arrêter. Ils se sont mis en grève, ils ont dit c'est simple, soit vous nous laissez. C'est ce qui s'est passé notamment pour. Quel le survivant. Ils ont dit c'est simple, soit vous nous laissez réécrire les dialogues à notre sauce, histoire de mettre de l'humour, soit on fait pas et vous débrouillez. Et c'est comme ça qu'on se retrouve notamment avec Quel le survivant et la fameuse technique du haut couteau de cuisine. Parce que voilà, c'est juste ça.
Mais moi, la question que je me pose, c'est qu'effectivement, ils ont acheté sans savoir, ils n'ont pas fait gaffe et après, ils sont fait gronder, donc c'est normal, ils ont pas fait leur boulot. Mais les séries qu'ils ont achetées, est-ce qu'elles visaient un jeune public? Est-ce que les Chevaliers du Zodiaque, par exemple, qui est hyper violent.
Non, ça visait pas un jeune public.
Voilà, ça visait pas un jeune
c'était,
public.
C'était ce qu'on appelait des shonen, donc c'est-à-dire que voire même
shonen,
seinen.
C'est quoi, c'est ado, ça.
Alors, shonen, c'est ado, et seinen, c'est jeune adulte.
Ken le survivant.
Ouais, voilà, seinen, c'est ça, c'est Ken le survivant. Donc ça visait vraiment un public de d'ado ou jeunes adultes, pas un public de gamins de 10 ans, quoi.
Clairement, d'accord, pas. D'accord.
On avait frôlé la catastrophe parce qu'ils pensaient, au début, ils voulaient mettre Berserk.
Ah, Berserk, oui. Pour ceux qui connaissent pas le manga Berserk, c'est à savoir le manga le plus gore. Alors, il est fantastique, hein, il est vraiment fantastique.
Plus que Ken.
Oui, totalement.
Je t'apporterai.
C'est vraiment, voilà. Donc, non, je dirais pas que c'est pas adapté à un public, à un jeune public. Je dirais juste qu'en France, on n'a pas fait l'analyse avant parce qu'il y a des animés dessinés.
Alors ça,
c'est fini aujourd'hui ça,
mais ouais. Oui c'est ça, mais parce que là on était à la fin des années 80-90 quand ils débarquent, mais depuis on a évolué sur ça,
on a internet
maintenant, il y a internet, oui, qui a permis de démocratiser beaucoup plus facilement. Les gens maintenant savent tout de suite ce qu'est un shonen. Oui,
bah, voilà. Pas forcément. Tout à l'heure, dans la chronique de Laura, on parlait de Power Rangers avec les enfants qui pleuraient dans la salle.
Parce que
Power Rangers, cette lecture. Hein.
Power Rangers, en fait, ça date des années 90. Donc les gens sont partis, ils ont vu la licence Power Rangers, ils se sont dit, ouais, bon, bah, c'est comme quand on était gamin. En effet, Power Rangers, c'était pour les gamins. Il n'y avait pas de violence. Enfin, c'est pas les gars qui se tapaient dessus en spandex, il n'y avait pas de sang, il n'y avait rien. Quand les ennemis mouraient, il y avait une explosion, et puis c'est tout, quoi. C'était pas. On voyait pas de morceaux.
Et puis les méchants, ils croyaient pas bien.
Voilà, voilà, on voyait que c'était un aspirateur. Il y avait un bras d'aspirateur, ça se voyait, quoi.
Voilà.
Mais aujourd'hui, toutes les séries nippones ont un age rating en France, ouais. Quelle que soit la plateforme sur laquelle tu regardes, tu as un âge indiqué. Après, tu peux pas interdire la diffusion. Enfin, et je pense qu'il y a plus de séries. Enfin, de toute façon, les gamins, ils ont plus leur créneau.
Non, il y a
Il y a des émissions pour enfants, mais dessus, t'as pas de séries nippones. Aucune ne sera violente.
Ça existe toujours, Debout les Zouzous, là, les trucs comme
non,
ça.
Non, c'est fini ça.
Alors, je sais qu'il y a Téfou qui existe encore sur TF1. Sur France 3, je crois qu'il y a encore un truc. Mais après, c'est très à la marge maintenant. Parce qu'en effet, comme tu le dis, Horta, avec
Internet,
Netflix, tout ouais. Ça, ça a tout changé. Mais après, il y a encore parfois des petites séries japonaises qui sont destinées plus à des enfants. Je pense notamment à la série Pokémon, qui, elle, par contre, est totalement destinée aux enfants. On a encore ça, mais... Donc, en fait, les séries nippones, comme nous, on a pu le connaître dans les années 80-90, n'étaient pas destinées aux enfants. De nos jours, maintenant, il y a cette dissociation qui est faite.
Alors après, c'est un peu aux parents aussi de regarder ce qu'ils font, regarder les enfants.
Et ça c'est un autre débat.
Voilà.
C'est un autre débat. Bah, merci en tout cas pour cette question connectée.
L'entre du geek, 20h-21h sur Happiness Radio.
Je vous propose qu'on passe au blind test parce que en fait, je remarque qu'on n'a plus beaucoup de temps dans l'émission. Enfin, il reste à peu près un petit quart d'heure et j'ai quand même prévu pas mal de choses pour le blind test et je voulais quand même vous faire écouter tout ça. J'ai vraiment été chercher bien loin. Alors, le principe est toujours le même. On laisse 5 secondes avant de répondre, même si parfois au bout de 30 secondes, voire 2 minutes, c'est toujours pas trouvé. Mais voilà, le thème cette semaine, c'est les séries de notre enfance, donc années 90, début 2000.
Ça va, j'ai presque cru que t'allais dire le thème, c'est Power Rangers.
Alors, pardon, il y a un peu de 80.
Ah,
il y a un peu de 80. J'ai vraiment. Mais c'est vraiment.
90, 80, 2000.
C'est ça. Donc, par exemple, Horta, si je mets ça, normalement, tu devrais connaître facilement.
K2000.
Ouais. Knight Rider en version anglaise, en effet K2000. Donc c'est qui a le point? Sabrina, tu fais les points encore?
On est deux.
Il y a Jay.
Ah oui,
Jay. On a dit en même temps, quasi en même temps.
Donc allez, donc un point chacun pour Jean-Alain et Sabrina. Voilà. Alors, donc voilà, ça va, c'est pas trop trop compliqué.
Genre Alain, il y a ta femme qui est à fond.
C'est pas que des dessins animés, mais aussi des séries télé.
Non, mais c'est que des séries télé.
Ah, d'accord.
Il n'y a pas de dessins animés.
Il n'y a pas de dessins animés.
Ah, mais moi, c'est pour ça, j'ai pas osé répondre tout de suite parce que je me suis dit, mais c'est pas un dessin animé.
C'est que de la série télé.
Mais préviens, enfin.
J'ai dit série. Alors, donc ça, c'est fait. Je vous propose celui-là.
Morning Live.
Highlander?
Non.
Dune?
Non.
Oh.
Zéna ?
Zéna la guerrière.
Zéna la guerrière, ah, en effet. Ah. Avec Lucie Lolès.
Les chants bulgares. C'est les chants bulgares.
Ah bon ?
Ah bah ça ressemble vachement à des chants bulgares.
Ah, je connais pas du tout les chants bulgares, donc je peux pas te dire, mais ok, je savais pas. Et ouais. Xena, la princesse guerrière. Franchement, quand je suis tombé sur ce générique en faisant ce blind test, j'ai eu envie de me regarder à nouveau la série.
Ouais, c'était trop bien.
Avec Hercule.
Ouais, il y avait le crossover avec.
Alors, le crossover en dessin animé, que j'avais la cassette, je me rappelle.
En dessin animé.
Ouais, le crossover Xena et Hercule, il y a eu un film en dessin animé.
Ah ouais.
Qui est juste horrible, dégueulasse.
Mais après, t'avais la série Hercule aussi.
La série Hercule. Alors, il n'y aura pas la série Hercule dedans, donc je précise. Mais ouais, il y avait la série Hercule, donc c'était vraiment cette histoire de. Enfin, c'était, j'avais l'impression de voir Power Rangers, en fait, mais en version antique avec des dieux. C'était ça, en fait. Sans les robots, sans les costumes, c'était Power Rangers, en fait.
Elle était badass, elle. Hein.
Ouais.
Ouais, Xena,
en tout cas, c'est aussi kitsch.
Elle avait très beaux yeux.
C'est aussi kitsch que Power Rangers, ça, c'est sûr.
C'est kitsch à mort. Mm. Suivant.
Yo, make man, no. Woman, woman.
Ah, code Dexter, code Lisa. Code Quantum.
Alors, code Lisa, je suis d'accord. Merci de pas hurler dans le micro, par contre.
Elle a dit tous les codes possibles. Hein.
Code Lisa, la nana qui est extraterrestre, enfin qui est fait par informatique.
Par ordinateur, c'est ça. Weird Science en version originale. C'est le générique qui est super sympa, je trouve. Vraiment. Ouais, l'histoire, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était deux geeks qui, en faisant je sais plus trop quoi sur ordinateur, il y a eu un orage à ce moment-là qui a frappé l'ordinateur et ça a créé Lisa, qui était une sorte de génie informatique qui pouvait exaucer les vœux et c'était n'importe quoi. Mais c'était assez marrant, en fait. Faudrait que j'en regarde à nouveau, tiens. C'était vraiment très intéressant.
Faut que tu regardes tout si on t'écoute.
Ouais, faut tout regarder. Suivant. Ah, ça va aller très très vite. Donc attention, on respecte les 5 secondes, c'est très important.
X-Files.
Non, mais non. Elle n'avait pas 5 secondes là.
Non, mais elle ne respecte rien.
Non, elle respecte pas les règles du jeu. Un moins un point pour Sabrina.
Non.
Il y a eu un faux départ quand même, hein, Sabrina. Je suis désolé, il y a eu un faux départ.
Non, on a tous levé le doigt et au moment où on levait le doigt, non.
Non, mais elle triche.
Mais
elle
la première note.
Mais non,
moins un point. Tout le monde l'avait, enfin.
Elle a qui le point parce que.
À moi.
Alors, à tout le monde sauf Sabrina.
Non, oui,
oui, oui, exactement.
La seule à lever la main.
Est-ce qu'on peut pas voter à un moment?
Et des fois, on a donné des points à des gens qui n'ont pas respecté la règle.
J'ai une petite idée pour le prochain. On prend tous une feuille et on note les réponses.
Non, mais sinon, on annule le point. Ce sera le plus simple, je pense. Ouais. On annulera le point.
Ouais, je suis d'accord. Donc, tricheuse.
X-Files. J'ai jamais vu X-Files.
Oh, si. Ça a bercé mon adolescence.
Donc, on annule ce point-là.
Enfin, je n'ai jamais regardé vraiment cette série. Alors, je sais que ça raconte l'histoire de deux agents du FBI qui enquêtent sur des trucs surnaturels et tout. Mais c'est qu'avec des extraterrestres, non ? Ou il y a aussi des fantômes, tout ça ?
En fait, X-Files, c'est vraiment de tout. C'est des légendes urbaines, en fait. Ils reprennent que les légendes urbaines.
Ils en avaient fait un reboot, d'ailleurs, il y a quelques années.
Ah bon ?
Ouais, je crois. Où c'était soit pour parler, soit c'était. Ils ont fait un reboot, ça n'a pas trop marché.
Mais je sais que c'est vraiment une référence ultime pour les geeks.
La première grosse série que les gens bingeaient.
Ah bon ?
C'était la première série phénomène, quoi.
Et après, on a eu Supernatural.
Oh non, ça n'a rien à voir. Il y a quand même une hype
avec laquelle plus importante, je trouve.
Je suis d'accord avec.
Après, j'ai vu ni l'un ni l'autre, donc je peux pas dire. Numéro. Alors celui-là, je l'ai fait. Tiens, allez. Fallait bien que j'en fasse un.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Matty Murphy Power Ranger.
Non.
Dino Tonnerre.
Non.
Ah. Reno Turbo. Power.
J'ai pas
Rangers Power.
C'est le deuxième après.
Non, c'est pas le deuxième.
Soup Adam.
C'est le quatrième.
Samouraï.
Non, quatrième. Et il l'a dit. Hein,
les Warrior Rangers.
Super Sentai.
Galaxy.
Non, avant. Entre Turbo et Galaxy.
Dino Tonnerre.
Non. Bah dans l'espace.
Mighty Morphin Power Rangers.
Power Rangers dans l'espace. Il le dit, il dit in space
depuis tout à l'heure. Les Space Rangers.
Ah. Oui, c'est ça. C'est... Rangers dans l'espace.
Bon, bah, y a pas de point là.
Y a pas de point.
Ils sont allés jusque dans l'espace, ces gens-là ?
Ah, mais ils sont allés partout. Ils sont allés dans une autre galaxie.
En même temps, c'est vrai que c'est des extraterrestres à la base. Donc...
Non, pas. Oui.
Excuse-moi, j'ai vu le film, ok ?
Ouais. Mais voilà, ouais. Pointers dans l'espace. J'adore en fait ce générique. Et je
vois bien qu'avec cette chanson, tu es le seul à connaître.
Ouais, oui, non, mais bien sûr. D'ailleurs, pour la petite info, il faut savoir que cette saison, cette quatrième saison de Pointers dans l'espace, bon, c'est pas vraiment la quatrième, c'est la sixième, mais bon, c'est la quatrième équipe.
Tout le monde a su la différence entre c'est la quatrième et la sixième.
Puis on est content de savoir le détail.
En fait, c'est un blind autotest.
À partir de cette saison-là, ils ont arrêté de reprendre les mêmes acteurs américains. Ils ont changé en fait à chaque fois d'acteur à partir de ce moment-là.
Mais c'est génial.
Ouais, c'est génial. Bref. Donc maintenant que j'ai fait mon petit ma petite propagande, je vais passer à celui-là. Pareil, ça va aller très très vite.
Est-ce que Sabrina va encore tricher ?
Voilà.
5 secondes.
Elle triche. Buffy.
Là, pour le coup, elle a attendu les 5 secondes. Hein.
C'est fair.
Donc, Buffy contre les vampires. C'était quoi déjà ? C'est Sarah Michelle Gellar, c'est ça ?
C'est Sarah Michelle Gellar.
Pareil, Buffy, j'aimais pas.
J'adorais.
Mais toi, t'es typiquement
la cible. J'adore regarder les épisodes encore.
Alors,
il y en a qui ont pour Rangers, d'autres qui ont Buffy.
Ouais, chacun son truc. Là, un truc que j'ai été chercher un peu loin. Alors, c'est pas le générique officiel, mais c'est une musique qui a donné le générique.
Charmed.
Alors,
quoi ?
Charmed,
ok. Là, c'est easy, ça. C'est pas la version... ça, c'est une reprise avant le générique de Charmed et... Écoutez voir et dites-moi à peu près c'est qui chante ça.
À peu près ?
Non, pas à peu près, non, qui chante ça ? Alors, elles sont deux.
Tatou.
Ah, Tatou, ouais.
Tatou, en effet. Tatou a repris ça. Alors, il faut savoir qu'à la base, le générique, enfin la musique originelle, c'est celle-là.
Oui.
Alors non, ça c'est pas le générique, ça c'est le c'est la musique originelle.
Oui, et Tatou après l'a fait après la version.
Tatou a refait et ensuite ça a été repris par un groupe Love Spit Love qui a donné du coup le générique de Charmed qui a donné ça.
Ah, la trilogie du samedi soir, la vie, la base. Ouais.
Alors, et c'est là où en fait les pros du blind test arrivent à reconnaître l'intro, les différences de l'intro, c'est assez fou. Donc voilà. Suivant.
MacGyver,
bien joué.
Bravo.
C'est ça, c'est MacGyver. Avec Richard Dean Anderson.
Et là, pareil, ils ont fait un reboot.
Ouais, qui était nul. Knight Rider aussi. Enfin, K2000 aussi, ils ont fait K3000.
Ah,
c'est nul.
À quand K4000
D'ailleurs, le.
K4000, ça aurait été fun. K4000, ça aurait été bien.
Là, le gimmick en fait de la musique, à chaque fois, ça me fait penser à ça.
Ranger du risque.
Mais oui, c'est la même, hein,
c'est
on est
exactement
d'accord.
La même chose.
Alors, qui a triché ? Qui a pris sur qui ?
Alors, je pense que c'est Tiki et Tak qui ont pris sur MacGyver, mais quand même, le doute persiste. Allez, on va rester un peu dans la même veine.
Stargate,
en effet. Stargate SG-1, toujours avec Richard Dean Anderson.
Eh oui.
Le colonel O'Neill, le seul, le vrai.
Et Tilk. Ouvre le chapaï. Il va falloir rattraper Sabrina. Hein.
Ouais, au bout
je
d'un
cours
moment.
Pas très vite. Hein. Je m'en fiche, j'ai fait un point, je suis contente, merci.
Bien,
j'y vais.
Bravo, bien joué, bien joué. Du coup, oh, j'ai le temps d'en faire encore deux, facile. Je vais mettre celui-là. Alors à chaque fois, je mets les versions étendues, hein, histoire de...
Est-ce que c'est pas le gars qui était un peu tout seul? Et il changeait d'identité.
Jarod, Caméléon.
Oui, Caméléon.
Non, ce n'est pas le Caméléon.
C'est pas celui qui est remonté dans le temps.
Non.
Doctor Who.
Non.
Ah non.
Alors, attendez un peu, vous allez vite. Là, c'est parce que le gimmick n'est pas encore arrivé, mais je pense que quand le gimmick arrivera, vous allez vite l'entendre.
Ah, si, ça me dit gimmick. Chose, ça.
Ah, Angel.
Ah Angel, en effet, c'est ça. Angel, le spin-off de de Buffy contre les vampires.
Mais oui. Il était trop beau, lui.
Je sais même pas ce que c'est.
En fait, c'était un vampire qui en fait avait une âme et était gentil.
Oui, non, mais ok.
Voilà. Non, mais il est trop beau.
Donc voilà, Angel. Alors, pour finir, je vous propose une série que j'ai énormément appréciée.
Bon, on connaît pas.
Allez, on va y aller.
Ah,
Alerte à Malibu.
Non,
c'est pas Cameron ça.
Non.
Magnum.
Non.
Miami Vice.
J'ai par cœur, ne perds jamais. Truc...
Ah si, c'est Madame et Servie.
Non,
c'est pas un truc comme ça.
C'est l'homme de ménage là.
Non, pas Madame et Servie.
C'est notre... l'homme de ménage.
Non, ah, c'est pas Madame et Servie.
Ma belle famille. Ma...
Non,
mais non, je l'ai dit, notre belle famille. Mais c'est un truc comme
le
ça.
Prince de
Alors, le héros s'appelle Samuel Beckett.
C'est... Oui, c'est notre. Hein
Samuel Beckett.
Ah non.
Chuck Norris. Ah.
Bah non.
Ah, c'est pas Demain à la Une.
Non.
Non. Attends, c'est quoi?